Les coqs chantent et jour paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous rendons visite à l'unité de coordination du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, à N'Djamena, au Tchad. Il faut savoir que l'élevage est un secteur économique très important au Tchad, mais le pays peine à exploiter convenablement ce secteur qui représente 40% du PIB. Notre première visite, c'est dans le bureau du docteur Abderrahim Awad Ateb, ministre de l'élevage et des productions animales du Tchad. Un responsable qui vous reçoit à la tchadienne, c'est-à-dire sans protocole excessif.
L'élevage, d'une manière générale, ça concerne le bétail, d'une manière générale. Et puis nous, par exemple, ici, nous avons un cheptel très très important au Tchad. Nous sommes à presque 130 millions de têtes de bétail d'une manière générale, y compris les ovins, le bovin, les camélins, les équidés, les arsins, ainsi de suite.
Si j'ai bien compris, il y a cette activité, je dirais ancestrale, mais aujourd'hui, le souci des autorités, c'est que ce soit rentable, que ça rapporte quelque chose aux familles et que ce soit profitable pour l'économie nationale.
Et c'est faisable. Si, par exemple, on commence seulement à exporter la viande de notre cheptel en dehors de ces pays, économiquement, ça va donner beaucoup, ça va rapporter beaucoup au pays. Traditionnellement, par exemple, la collecte de lait. Si, par exemple, nous avons notre lait ici, on peut aussi le transformer en lait en poudre, et ainsi de suite. Et puis, ça contribue aussi à l'économie de notre pays.
Donc, vous êtes en train de me dire que vous avez 130 millions de têtes de bétail, mais vous importez quand même du lait en poudre.
Oui, jusqu'à là, on est en train d'importer parce que nous sommes dans la pratique traditionnelle. C'est ça, c'est-à-dire que nous voulons passer du système traditionnel au système moderne. C'est ce qui se fait ailleurs. La viande, par exemple. Maintenant, la viande ici, traditionnellement, on l'utilise le premier jour. Si, par exemple, on ne peut pas la conserver, c'est que le lendemain, c'est tout. La viande pourrie, ainsi de suite. Le lait, c'est la même chose. Et maintenant, si on a eu le moyen de le conserver, que ce soit la viande, que ce soit le lait, d'une manière générale, la chaîne de valeur, donc si tout ça, là, on peut le conserver, donc nous n'aurons pas de problème.
Ce que vous appelez chaîne de valeur, monsieur le ministre, c'est-à-dire depuis l'éleveur, le boucher, le transporteur, celui qui va commercialiser, le cuisinier, c'est-à-dire que toute cette chaîne d'acteurs-là.
Techniquement, lorsque les gens parlent de chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on prend l'animal, par exemple sa viande, les laits et par exemple les sous-produits.
C'est-à-dire que depuis l'éleveur jusqu'à mon assiette à moi.
Oui.
D'accord. C'est un bon résumé?
Oui.
Alors, avec tout ce que vous venez de nous dire, monsieur le ministre, je comprends que le Tchad joue un rôle pilote dans le PRAPS.
Oui, oui, on joue un rôle pilote dans le PRAPS parce que vu le nombre de notre cheptel et vu la superficie de notre pays encore, nous avons aussi l'espace qui est là. Et le PRAPS même, il est très important pour nous. On a eu des marchés, ils ont un nombre de 12. On a eu des postes de sortie frontaliers, 3. Il y a d'autres qui sont venus. Nous avons ici les parcs, c'est-à-dire une centaine de parcs. On a des mares qui ont été aménagées. Nous avons des puits aussi qui sont là. Presque 200 km de balisage pour la transhumance. On a eu, par exemple, 750 000 hectares de pâturage, en tout cas la gestion des ressources pour éviter le conflit, c'est-à-dire le couloir de transhumance, les aires de cisaillement et ainsi de suite.
Alors moi je veux vous remercier monsieur le ministre parce que je sais que vous êtes très occupé mais vous avez accepté de nous accorder cet entretien. Merci.
Merci beaucoup.
Bon, c'est
ok, d'accord.
Inch'Allah, je promets.
Bon, merci monsieur le ministre.
Merci
et bon week-end.
Merci.
Okay. Même. Après cet état des lieux sur l'élevage au Tchad, maintenant l'affaire qui nous occupe, c'est-à-dire le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. On va situer le contexte. Depuis le début des années 1970, Le Sahel souffre de sécheresses récurrentes qui ont mis à mal les ressources naturelles. Quand on vit d'élevage, la rareté de fourrage et d'eau pour l'abreuvement du bétail est un problème sérieux. Certains ont eu la tentation de sédentariser les éleveurs, ce que les techniciens ont appelé la stabulation. Puis on s'est rendu compte que dans l'état de pauvreté des familles, il était impossible de tenter une sédentarisation qui demande de gros moyens financiers et techniques. Reste donc le pastoralisme. En quittant le ministère de l'élevage, on traverse la rue et on arrive dans les bâtiments du PRAPS.
Bonjour,
monsieur.
Le directeur technique, le RAF, l'ingénieur Sayouba Traoré, le coq chante.
C'est le coupable.
Là également, il nous faut situer le contexte. Les États concernés par la dégradation de l'environnement au Sahel ont multiplié les rencontres internationales. Le maître d'œuvre de toute cette diplomatie autour de l'élevage, c'est le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, CILS. Ensuite, on a obtenu un financement de la Banque mondiale d'un montant de 248 millions de dollars US, ce qui a permis de mettre en œuvre le PRAPS. Ce projet régional cible les populations dont les moyens de subsistance dépendent principalement des activités pastorales, en particulier les plus vulnérables, les jeunes et les femmes en premier lieu, dans 6 pays sahéliens. Nous sommes reçus dans le bureau de monsieur le coordinateur du PRAPS au Tchad. Là-bas, on dit le cordeau.
Il faut dire que voilà, le Tchad est un porteur de ce projet dans le Sahel et ça concerne donc les 6 pays, à savoir donc le Sénégal, le Mali, Mauritanie, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso. C'est un projet qui a pour objectif donc de renforcer la résilience donc des agropasteurs hein, et surtout aussi sur le volet santé animale pour pouvoir donc apporter une aide significative donc à nos bétails et aussi construire des infrastructures pour alléger ces pasteurs transhumants qui passent d'un pays à un autre.
Vous avez un plein mot technique, monsieur le coordinateur. C'est quoi la résilience?
Nous avons des problèmes par rapport au manque d'eau, nous avons des problèmes par rapport au réchauffement climatique. Et donc ces personnes-là se sont adaptées pour pouvoir vivre dans cette société hostile. Et donc, il faudrait les accompagner. Vous savez, avant le démarrage de ce projet, pour aller d'un point d'eau à un autre, il faut au minimum parcourir 50 kilomètres.
Alors, avec le troupeau?
Avec le troupeau, bien entendu.
Ce qui n'est pas sans conséquence.
Mais bien sûr qu'il y a des conséquences. Absolument, parce que imaginez en plein chaleur, 40-45 degrés à l'ombre, la personne, c'est toute une famille qui se déplace. Hein, et parcourir 50 km pour aller chercher l'eau, c'est quelque chose. Donc pour nous, aujourd'hui avec le PRAPS, nous avons donc diminué ces parcours. Au lieu d'aller jusqu'à 50, on va simplement à 20.
Comme l'administration ne perd pas ses droits, le PRAPS fonctionne à ce que vous appelez composante 1, 2, 3.
La composante 1, c'est la santé animale. Hein. Elle s'occupe de tout ce qui est soin, donc il faut soigner les bêtes, les nourrir. Nous avons la composante 2, la gestion des ressources naturelles, les ressources, donc c'est l'eau, le pâturage. Nous avons aussi une autre composante qui n'est pas le moindre, c'est la composante 3. Celle-ci donc, nous permet donc, d'avoir un accès au marché, c'est-à-dire avec les pays voisins. Et donc, nous avons construit des marchés à bétail, dignes de ce nom. Ces marchés donc permettront de développer plus, en tout cas d'accentuer le commerce des bétails transfrontaliers entre le Niger, bien entendu, avec les filières Kamblin, avec le Cameroun, le Centrafrique, et ainsi, pourquoi pas la Libye, voire même le Soudan. Ici, il est question de vendre des bétails, mais en faisant cela, il est aussi question de créer des activités génératrices de revenus pour les petits paysans dans un petit village qui vient avec ses commerces, parce que c'est le jour, voilà, c'est hebdomadaire, tout le monde se retrouve, on peut vendre ses beignets, ainsi de suite. Donc, tout ça contribue effectivement au développement de nos régions et de nos provinces.
Ces réalisations sont importantes dans la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Il y a un autre volet qui a son importance, la gestion des crises pastorales.
sur la gestion des crises pastorales. On intervient rapidement dans un laps de temps. Nous avons mis en place un système d'alerte qu'on appelle la SAP, le système d'alerte précoce, qui intervient rapidement pour pouvoir apporter des réponses significatives. Donc en prenant en charge les soins de ces animaux et surtout aussi d'assister les personnes victimes d'une maladie dite animale.
La philosophie globale, c'est que vous faites une action.
Exact.
Et vous faites ce que vous appelez la sensibilisation, c'est-à-dire que vous transmettez soit l'infrastructure, soit la connaissance, soit en tout cas ce que vous avez créé
exact.
Aux populations locales
exact.
Pour le jour où vous ne serez pas là.
C'est exactement ça. C'est-à-dire l'idée, c'est donner, mais aussi former.
Je vous pose cette question parce que moi, j'ai vu des gens qui sont arrivés dans les villages, ils ont fait des choses, et les villageois ne se sentaient pas concernés. Et quand ils sont repartis, c'est retombé.
On ne peut pas aller comme ça, comme des gendarmes, implanter et partir. Non, c'est toujours avec tout ce qu'on fait, c'est fait toujours par des accords sociaux.
J'espère que nous n'allons pas offenser les gendarmes, mais bon.
pas du tout, non. Tout ce qu'on fait est fait par un accord dit social. Donc l'accord social, c'est quoi? C'est quand on va dans un petit village ou dans le contrée, quelque part dans une province du pays. À défaut d'un sous-préfet, à défaut d'un préfet, il y a toujours quelqu'un. L'autorité administrative, en l'absence de l'autorité administrative, il y a l'autorité coutumière, donc le chef de canton. À défaut, il y a un chef de village et il y a toujours un chef. Donc on va d'abord chez le chef, on explique les bien fondés de notre mission, on s'accorde sur les choses et tout le monde signe pour dire qu'on est d'accord pour qu'on nous crée ça, tout en respectant bien entendu les normes sociales et environnementales, exigences de la Banque mondiale. Tout ça, c'est pris en compte, c'est étudié, tout est préparé. Et d'abord, on vient, on implémente et on commence les travaux.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que bon, le temps qu'on met à discuter avec les gens jusqu'à tomber d'accord, oui. En fait, ce n'est pas une perte de temps comme on pourrait le croire.
Pas du tout, parce que ces personnes-là, c'est eux qui vont se l'approprier, l'ouvrage, c'est pas nous. C'est leur chose qu'on leur fait comprendre. Il faudrait qu'ils participent, c'est pour vous. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, la personne elle se sent plus concernée. Parce que, voilà, elle était là, elle a pris une décision quoi, pour son existence. Mais c'est anodin, mais c'est important.
Moi, je vous remercie parce que je sais que vous êtes attendu, mais vous nous avez accordé cet entretien.
C'est moi qui vous remercie.
Ah. Bon, je vais chercher la droite et je reviens.
Merci.
Bon. Merci et bonne journée.
Pour voir comment tout cela fonctionne concrètement dans les villages, nous avons demandé un entretien avec M. le directeur technique du PRAPS au Tchad.
Je réponds au nom de Mohamed Abdallah Gouroumi. Je suis le directeur technique du projet PRAPS Tchad.
Nous sommes au Tchad, dans votre bureau en N'Djamena. On ne peut pas dire le contraire. C'est-à-dire que voilà, la population a augmenté. Il y a des pays où ça a été multiplié par 5. Les sécheresses ont fait que les territoires habitables, enfin exploitables, ont rétréci. Donc ça veut dire que agriculteurs, éleveurs, tout le monde se retrouve dans un périmètre étroit. Alors que les besoins ont augmenté, il faut produire plus dans l'agriculture, il faut produire plus dans l'élevage. C'est un casse-tête, là.
Oui, c'est un casse-tête, mais pas insurmontable. Au Tchad, ici, notre politique, justement, c'est de créer les conditions pour que les deux types d'agriculture, donc au sens large, hein, élevage et agriculture, les deux types d'agriculture puissent se développer ensemble.
Faisons un peu d'histoire, c'est-à-dire qu'il y a tout ce que vous venez de me dire là, parce que vous doutez bien que j'étais fouiné avant de venir vous voir. Les différents responsables se sont réunis, ont dit voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait?
L'initiative est partie d'abord d'ici, N'Djamena en 2013. Et par la suite, donc, la même année, il y a eu la rencontre de Nouakchott, où la déclaration finale a été faite, et où justement donc, la Banque mondiale a accepté de se mobiliser aux côtés de ces 6 pays-là. Les 6 pays actuels du PRAPS appartiennent à un même caravane, et du coup, ils sont confrontés au même problème d'ordre structurel. Et justement, donc, pour pouvoir les résoudre, il faut mettre les forces ensemble.
Pardonnez-moi de vous couper, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il ne servait à rien que chacun fasse les mêmes erreurs chez lui. On va avoir 6 fois la même déception. Et on essaie de voir ce qui a marché pour prendre là ce qui a marché et là ce qui n'a pas marché, éviter de le faire. Est-ce que je résume bien?
Vous résumez parfaitement. Donc, le maître mot au niveau du PRAPS, justement, donc, c'est d'apprendre des erreurs des uns et des autres, mais aussi des expériences positives des uns et des autres. Dans une caravane, les animaux sont arrivés les uns aux autres. Et ils sont condamnés donc à avancer tous ensemble pour pouvoir arriver à la destination.
Donc si j'ai bien compris, vous, directeur technique, vous suivez ce qui se passe. Et à chaque fois, on fait un bilan d'étape. Et c'est pour ça que nous, on voit des réunions sans fin. Là.
Oui, vous dites réunions sans fin. Nous, on trouve même peut-être qu'on n'en fait pas assez.
Ah donc, il y a des choses que nous, on ne voit pas.
Absolument. Donc, il y a des échanges qui se font fréquemment et de façon régulière entre nous, les autres pays, entre nous et les CILS, donc qui coordonnent les six pays, entre les pays, les CILS et la Banque mondiale, qui se font régulièrement à chaque fois pour prendre la température et essayer d'avancer.
Et pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, voilà. Là où il faut accélérer.
Justement, là où il faut accélérer, donc chaque année, la Banque mondiale et les CILS organisent ensemble avec donc les États de ces différents pays, ce que nous appelons les missions d'appui à la mise en œuvre.
À l'échelle d'un pays de 1 300 000 km², la tâche est immense. Il s'agit d'améliorer la santé animale, de veiller à une gestion durable des ressources naturelles, de faciliter l'accès au marché pour des populations rurales afin de rentabiliser le pastoralisme, de sensibiliser et de former ces populations à ces nouvelles façons de travailler. Et tout ça dans un temps limité de 6 petites années.
Ici, actuellement, il faut dire que dans le PRAPS, par exemple, tout se tient. Les 5 composantes découlent d'une même logique. Les animaux, il faut vraiment qu'ils soient très bien soignés pour qu'ils puissent justement bien produire. La composante 1, la composante amélioration de la santé animale, son rôle justement, c'est d'améliorer la santé des animaux. Et une fois que les animaux ont une bonne santé, eh bien on pense qu'à partir de là, ils ont un bon appétit, ils vont bien manger. C'est là où maintenant la composante 2 vient, elle dit ok, si la 1 traite bien les animaux, eh bien moi je peux leur donner à boire et à manger.
Ah ben si vous me donnez de l'appétit, vous ne pouvez pas me dire après qu'il n'y a rien dans le placard.
Non, évidemment. Et justement, donc les animaux bien soignés, bien nourris, prennent de l'embonpoint. Ils ont un bon état corporel. Du coup, la C3 dit, dans ces conditions, moi je vous construis des marchés plus rémunérateurs où vous pouvez vendre ces animaux. Ces marchés modernes donc, qui sont construits offrent donc des bonnes conditions. Un certain nombre de services également, ils sont protégés, donc ils sont produits. Donc les marchés sont d'abord clôturés, ce qui déjà sécurise les animaux. Il y a un service d'eau, l'eau est fournie sur place, donc il y a un château d'eau. Tout comme sur place, vous avez une pharmacie vétérinaire. Tout comme sur place, il y a un magasin donc, d'aliments bétail qui est sur place. Les éleveurs trouvent tout sur place, à l'intérieur de ces marchés. Maintenant, on s'est dit, malgré tout ça, il se pourrait qu'un choc climatique telle qu'une sécheresse, par exemple, donc puisse détruire tout ça. Et c'est là où maintenant la composante 4 intervient pour dire, ok, dans ces conditions, moi je suis prêt à soutenir les familles les plus vulnérables pour pouvoir traverser donc une période de crise pastorale, par exemple. Et ainsi, donc le PRAPS Tchad a eu justement apporté une réponse à ce niveau-là pendant la saison 2017-18. Et donc, on a pu limiter un peu la casse grâce donc à la mobilisation des éléments bétail, des vaccins et également donc la création d'urgence des points d'eau.
Je vous remercie.
Je vous remercie, vous surtout. Merci beaucoup.
Nous étions au ministère de l'élevage et des productions animales et au siège du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, à N'Djamena, au Tchad. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel. Au micro, Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
Géopolitique, le débat.